Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Clémence Alezard, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. Suite de notre série consacrée aux murs, aujourd'hui rétablir les barrières douanières, le protectionnisme en question.
It's going to be only America first. America first.
Nous allons commercer, mais on va le faire en tête à tête. Et si quelqu'un se comporte mal, on va lui envoyer un contrat de résiliation. Il aura 30 jours pour se reprendre ou on partira.
L'extrême droite. Elle nous appelle au repli, à la sortie de l'Europe et du monde, et elle prend comme référence ce qui vient de se produire aux États-Unis. Je vous le dis nettement, franchement, le plus grand danger, c'est le protectionnisme, c'est l'enfermement. Et ce serait d'abord un désastre pour les travailleurs français.
Il est vrai que la mondialisation économique a créé de nouveaux problèmes, mais ce n'est pas une justification pour en sortir complètement. Nous devrions plutôt nous adapter et guider la mondialisation économique, amortir son impact négatif et offrir ses avantages à tous les pays et à tous les peuples.
François Hollande et Xi Jinping, le président chinois, inquiet de velléités protectionnistes du nouveau président américain Donald Trump. America first. Tout au long de sa campagne, Donald Trump n'a cessé de promouvoir un nationalisme économique assumé, prônant sans relâche le retour des barrières tarifaires et la fin des délocalisations. Le 4 janvier dernier, d'ailleurs, la décision de Ford de renoncer à la construction d'une usine au Mexique a semblé lui donner raison. Et le nouveau président américain s'en était d'ailleurs largement félicité. Dès sa prise de fonction, le 20 janvier dernier, Donald Trump a posé les jalons de sa politique protectionniste. Retrait des États-Unis du partenariat de libre-échange transpacifique, le TPP, promesse de taxer à 45% les importations chinoises, volonté de renégocier l'ALENA, l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, des déclarations qui s'inscrivent dans un mouvement global de repli des économies nationales alors que les conséquences de la crise de 2008 continuent de se faire sentir. Un retournement tel que ce sont désormais les responsables chinois qui se font les héros du libre-échange au forum de Davos et accusent leurs partenaires de ne pas respecter les règles de la mondialisation. Alors le protectionnisme constitue-t-il une véritable option pour lutter contre la désindustrialisation et le chômage dans les pays développés? Les barrières douanières sauveront-elles l'économie mondiale? Et d'ailleurs, quel lien existe-t-il entre le libre-échange et la croissance? Que nous dit l'histoire à ce propos? Voilà des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité un économiste, bien sûr, El Mohoub Mohoud. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, un spécialiste de la mondialisation et des migrations. Vous avez d'ailleurs signé l'immigration en France qui vient de paraître chez Fayard, mais aussi mondialisation et délocalisation des entreprises. Je crois qu'il y a une quatrième édition, une cinquième édition même qui est attendue pour les semaines qui viennent. Ça sera chez La Découverte. Au sommet de Davos, Xi Jinping, vous l'avez entendu, s'est fait le champion, le défenseur du libre-échange face aux États-Unis en plein repli. On avait, nous, l'habitude de voir l'Amérique comme évidemment la figure de proue du libre-échange, d'en diffuser un peu partout les principes, la philosophie. On sent très clairement qu'on est en train de vivre un véritable retournement dans l'histoire économique mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, il y a à la fois des éléments de continuité, des éléments de rupture. S'agissant des éléments de continuité, on n'a jamais été, contrairement à ce qui a pu être dit, dans un processus de total libre-échange. Il y a toujours eu des mesures de protection et elles se sont accrues en particulier ces dernières années, avant même l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc il y a un mouvement de réaction qui est lié à la baisse du commerce mondial d'ailleurs. Hein. On en parlera, mais le reflux du commerce mondial depuis, disons, la crise de 2009 puis sa poursuite aujourd'hui, crée des tentations de protectionnisme, de mesures protectionnistes, donc qui tendent à augmenter, en particulier sous la forme non tarifaire.
Vous voulez dire que le virage protectionniste, il a été pris bien avant Trump?
Bah, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans un monde totalement libre-échangiste. Hein. En Europe, comme aux États-Unis, comme dans les pays aussi émergents.
J'entends bien, mais est-ce qu'il y a une dynamique quand même, une forme de retour du protectionnisme ? Et si c'est le cas, à quand est-ce qu'on peut...
Il y a une augmentation des mesures protectionnistes qui est consécutive à la crise
de 2008. Hein,
de 2007-2008. Et ce que l'on observe, si vous voulez, c'est que quand on regarde le reflux du commerce mondial, effectivement, ce que les économistes appellent les élasticités du commerce mondial, c'est-à-dire le rapport entre la dynamique du commerce et la dynamique de la création des richesses, du PIB, on voit qu'on est dans une période où la dynamique est deux fois plus faible. Donc, si vous voulez, l'élasticité du commerce mondial par rapport au PIB était de 2, elle est de plus que de 1 aujourd'hui. Donc, quand le PIB augmente d'un point, le commerce n'augmente plus que de la même proportion, alors qu'avant, il augmentait deux fois plus vite. Mmh. Donc, on a un ralentissement du commerce mondial. Les mesures protectionnistes qui se sont accélérées, l'OMC en fait le bilan quotidiennement, mensuellement, n'explique qu'une partie mineure, on y reviendra, de la baisse du commerce. En revanche, ce qu'on observe, c'est que plus le commerce et les débouchés se réduisent, plus les tentations protectionnistes augmentent. Alors c'est là où il y a des éléments de rupture. Et de ce fait, on peut considérer que la proposition de Trump de mettre un droit de douane de 45% sur les importations provenant de Chine et de remettre en cause la préparation du traité Pacifique et de l'autre côté de mettre des droits de douane à l'encontre du Mexique sont un peu contre-productives. Parce que du point de vue, ça ne m'étonne pas trop que la Chine se montre à ce moment-là le chantre du libre-échange, puisque cette situation l'arrange parfaitement, puisqu'elle va pouvoir organiser les échanges intra-asiatiques et poursuivre la logique de son retournement à elle-même qu'elle est en train de faire en direction de son marché intérieur d'une part et en direction de la région asiatique d'autre part.
On y reviendra bien sûr sur la question chinoise. Restons un tout petit instant, si vous le voulez bien, sur les États-Unis, parce que en réalité, dans l'histoire récente, on voit que les États-Unis ont régulièrement été pris, disons, par des fièvres protectionnistes. Regardons par exemple les années 70, quand Nixon impose une taxe de 10% sur les importations. Dans les années 80, quand le Japon inonde le marché américain avec ses motos bon marché, avec ses magnétoscopes, les États-Unis réagissent aussi. On voit que le protectionnisme, en fait, il fait régulièrement des apparitions dans la politique économique américaine, très régulièrement.
Oui, parce que la position américaine a été, depuis la fin de la période des Trente Glorieuses, assez spécifique, au sens où les États-Unis ont cumulé un double déficit, un déficit jumeau, un déficit commercial qui s'est approfondi, donc avec un processus de désindustrialisation qui a été majeur, et puis un déficit budgétaire. Et en fait, l'économie américaine a toujours joué du taux de change d'une part, en laissant déprécier le change pour récupérer des gains de compétitivité, et par moment, en effet, on a vu la déferlement de la montée du Japon, et puis ensuite, plus tard, avec la Chine, a essayé d'enclencher des processus de protection de ce type. Donc c'est vrai que c'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est vraiment une rupture radicale aujourd'hui, dans la mesure où ce qui semble être décidé par la nouvelle administration américaine ne semble pas fondé sur un projet cohérent. C'est ça, c'est vraiment tous azimuts, et on a un retour d'un mercantilisme d'une nouvelle forme qui peut être extrêmement déstabilisant et dangereux, y compris pour les États-Unis.
On va revenir justement sur ces mesures et sur les effets qu'elles pourraient avoir sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale, mais c'est vrai que depuis des années, on entend quand même beaucoup de critiques sur le chemin pris par l'économie mondiale, considérant que le libéralisme outrancier, que le libre-échangisme engagé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a permis certes de développer les pays et d'apporter bien sûr des richesses, mais qu'il a aussi de fortes responsabilités quant aux inégalités profondes qui ne cessent d'augmenter, de s'accroître. Voilà un président américain qui dénonce la mondialisation telle qu'elle existe en tout cas aujourd'hui, qui dénonce ses effets sur les individus, et tout le monde s'insurge. Pourtant, regardons Hillary Clinton, elle dénonçait également les effets de la mondialisation. Elle pointait du doigt également les accords commerciaux. Qu'est-ce qui est en question en réalité ? Est-ce que c'est les mesures protectionnistes du président Trump ou est-ce que c'est son style outrancier et provocateur ?
Eh bien, un petit peu les deux. Parce que ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est que quand on regarde les différentes composantes de la mondialisation, on affecte beaucoup des responsabilités de la mondialisation au commerce mondial et assez peu à la composante la plus déstabilisante, la plus destructive, qui est quand même la finance mondiale. Et dans les propositions qui sont faites par les partis d'extrême droite un peu partout, on n'entend pas beaucoup parler de la question de la régulation de la finance mondiale, parce qu'il n'y a pas de logique autour de ça. Par contre, il est plus aisé de s'attaquer au commerce des produits. Alors là, il y a quand même un paradoxe qu'il faut souligner et sur lequel il faut travailler. Il faut bien reconnaître que la mondialisation a eu un effet d'approfondissement. Ces effets se sont approfondis. Il y a un paradoxe que je souligne, qui est qu'en même temps que la mondialisation commerciale se re-régionalise, avec ce que certains appellent la démondialisation réelle, au sens où la fragmentation des chaînes de valeur très loin, vers la Chine, vers l'Asie, est en train de reculer au profit d'une re-régionalisation, qui pour les firmes allemandes avec les pays de son hinterland d'Europe centrale et orientale, qui pour les États-Unis avec le Mexique, justement c'est là où de l'incohérence va apparaître assez rapidement, et donc on a un reflux, un repli du commerce, mais en même temps les effets de la mondialisation, et là les économistes sont plus réalistes sur le sujet aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une période d'une 5 ou 6 ans ou 10 ans même, les effets sont approfondis dans trois directions. D'une part, les travailleurs qui sont affectés ne sont plus seulement, comme dans les croyances précédentes, les non qualifiés, mais ce sont des tâches portées par des travailleurs de plus en plus qualifiés qui sont aussi affectés par la concurrence internationale, mais aussi par la robotisation. On voit cela pour les ingénieurs, les techniciens. Nous avons fait une étude sur les 6000 entreprises françaises. On observe que les gagnants de la mondialisation sont les managers, sont les porteurs de tâches de coordination. En revanche, tous ceux qui portent des tâches routinières, manuelles, facilement délocalisables, ceux-là sont en effet perdants. Donc il y a un effet d'approfondissement sur la montée sur les catégories de travailleurs. Juste un point qui fait que les inégalités s'accroissent, c'est que il y a eu une croyance des économistes assez longue qui était que les perdants existent, certes, mais les effets de compensation de bien-être global que crée le commerce l'emporte sur les pertes. Mmh. Et ça, c'était assez commode. Ce que moi j'observe, si vous voulez, en tant qu'économiste, c'est que certes, les effets de la délocalisation sur l'emploi sont minoritaires, par exemple, en termes de, au niveau macroéconomique. En revanche, quand ils détruisent l'emploi dans certains territoires, dans certaines zones d'emploi, ils les détruisent massivement. Et comme il n'y a pas de mécanisme d'ajustement, que la mobilité du travail est très faible, que les politiques publiques en direction des territoires qui subissent les chocs n'anticipent pas ces chocs, eh bien, on a des effets de représentation extrêmement coûteuse. Donc il y a un deuxième impact fort de la mondialisation.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine peur du protectionnisme? Il y a des économistes, peut-être pas les plus nombreux, qui regrettent que ce protectionnisme fasse très souvent figure d'épouvantail, considérant que cette idée selon laquelle le protectionnisme conduirait nécessairement soit au déclin économique, soit même pire, à la guerre, cette idée-là serait une fausse idée. C'est par exemple ce que dit Gaël Giraud, que vous connaissez probablement, qui est un économiste connu et reconnu. Pour lui, il y a une forme de mythe du protectionnisme guerrier, c'est l'expression qu'il utilise.
D'abord, attendez, moi je pense qu'il y a un mythe du libre-échangisme total.
Et pacificateur
aussi, parce qu'en réalité, dans la théorie du commerce international, y compris chez Ricardo et puis par la suite chez les auteurs, la situation dans le libre-échange, le pire comme le meilleur peut exister. La théorie montre que la situation de libre-échange est meilleure lorsque les pays sont relativement symétriques, quand ils ont des avantages comparatifs dans des biens qui sont soit tous à rendement constant, soit à rendement croissant. Mais dès lors que Frank Graham a montré ça en 1923, dès lors que vous introduisez des asymétrie entre pays, des déséquilibres. Imaginez qu'un pays ait un avantage comparatif dans l'agriculture qui serait à rendement décroissant, qui coûterait de plus en plus cher à produire, et qu'un autre aurait des avantages comparatifs dans des secteurs au contraire à rendement croissant, qui grâce aux économies d'échelle ferait baisser les coûts unitaires. Eh bien là, il y en aurait un qui perdrait de manière dynamique, ce serait celui qui serait dans l'agriculture et l'autre dans l'industrie. Donc il y a à ce moment-là une préconisation simple qui est très traditionnelle dans la théorie du commerce international, c'est la protection de l'industrie naissante qu'on doit à Friedrich List. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doctrine, à part les ultra-libéraux fous furieux, il n'y a personne, de raisonnable, qui dit bien le libre-échange, c'est la meilleure solution dans tous les
cas. D'accord, mais vous concédez qu'il y a peut-être un mythe du protectionnisme guerrier. Et en face, un mythe, effectivement, du libre-échangisme qui serait forcément bon et pacificateur.
Il y a une littérature qui a essayé de montrer les effets pacificateurs du commerce, en essayant de regarder des bases de données sur les conflits. Ça montre des résultats plutôt positifs. Mmh. Mais ça dépend de toute une série de contextes aussi qu'il faut prendre en compte.
Alors justement, faisons une petite perspective historique et puis ensuite on reviendra à l'époque contemporaine avec Donald Trump et avec ses mesures. Quand on va essayer d'interroger le lien entre libre-échangisme et croissance économique, regardons le 19e siècle, par exemple, le monde occidental était largement protectionniste. Un océan de protectionnisme cernant quelques îlots libéraux, écrivait l'historien économiste Paul Béroc dans son livre « Mythes et paradoxes de l'histoire économique ». À cette époque, la croissance était relativement importante. En fait, est-ce qu'il ne faut pas déconstruire un peu ce lien supposément infrangible entre libre-échange et croissance ?
Oui, bien sûr. Alors,
le libre-échange, bien sûr, c'est pas évident.
Non, je crois que vous avez raison de parler de déconstruction, parce qu'il n'y a pas là aussi les effets de causalité ne sont pas le libre-échange provoque la croissance. De même que je le dis sur l'immigration, c'est pas l'immigration qui provoque la croissance.
L'histoire économique le prouve.
Mais oui, absolument. Et en revanche, que le libre-échange soit catalyseur de la croissance quand la croissance est dynamique, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut montrer. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se tromper de causalité. C'est pas le libre-échange qui va provoquer la croissance. C'est si, lorsqu'on a une croissance dynamique, le libre-échange peut être un catalyseur. Peut-être un amplificateur. Et donc le protectionnisme peut être un perturbateur de ce point de vue-là. Donc il y a à déconstruire le mythe qu'on ne pourrait pas utiliser le protectionnisme. Or, toute la littérature nouvelle dans la théorie du commerce international a été justement de revenir sur ces notions en réintroduisant la politique commerciale stratégique, en expliquant pourquoi dans certains secteurs il est nécessaire de protéger. Mais là où on n'a pas suffisamment de débats, chez les économistes et aussi ceux qui prennent des positions politiques à cet égard, c'est quelle est la meilleure formule de protection ? Est-ce que c'est la protection sur les produits ? C'est ça que je pose comme question. C'est les droits de douane ? Ou est-ce qu'on peut avoir une autre forme de protection sur les facteurs de production ? La recherche et développement, l'innovation, l'environnement. Et ça s'est toujours poursuivi. Et c'est peut-être un peu plus efficace. Si on n'avait pas soutenu Airbus par des politiques d'aide à la recherche et développement au stade précompétitif et au soutien d'une industrie, on n'aurait jamais eu d'industrie aéronautique, aérospatiale forte en Europe. Donc il y a l'idée qu'on se tromperait en faisant comme si nous étions dans un monde de libre-échange complet. Or, les formes de protection diffèrent selon le temps. Et je vous rappelle quand même que dans la période de 1870 et 1910, qui est la période de première mondialisation, ce qu'on appelle la première mondialisation, c'est une période de croissance forte. Et c'est une croissance qui s'est libérée des entraves du protectionnisme parce que la terre devenait de plus en plus chère, les rentiers ont bénéficié et que les Carl Laws ensuite...
Oui, enfin, si on regarde la grande dépression du 1873-1896, elle se fait à un moment où les droits de douane sont relativement bas. Et en réalité, c'est le retour au protectionnisme qui va permettre ce retour à la prospérité.
Oui, alors c'est...
Après, il y a une libéralisation, je suis d'accord avec vous, mais dans ce moment de crise, c'est ça.
Les droits de douane sont extrêmement bas.
Bien sûr. Revenons à l'époque contemporaine. On s'interroge sur les effets concrets donc de mesures protectionnistes sur la relocalisation. Juste après l'entrée en fonction de Trump à la Maison-Blanche, le PDG de Ford, vous en souvenez, a fait une annonce de relocalisation d'une partie de sa production. Écoutez.
De nombreux facteurs apparus sur le marché, ainsi que notre effort pour utiliser pleinement la capacité des installations existantes, tout cela nous a incités à investir évidemment dans l'expansion de Flat Rock et à annuler la construction d'une nouvelle usine au Mexique.
Voilà, Mark Fields, donc le président de Ford, qui annonçait l'annulation de la construction d'une usine automobile au Mexique. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut relier cette annonce au fait que Trump a relayé pendant toute sa campagne l'idée qu'il allait rassembler les conditions du Made in America, qu'il allait mettre en place des mesures protectionnistes ? Quel lien est-ce qu'on peut faire entre les deux ?
Alors là, moi là, je vais être tout à fait clair, hein. Il me semble qu'il y a une sorte d'escroquerie sur la marchandise, si je puis dire. Ce qui s'est passé, c'est que le mouvement de relocalisation aux États-Unis est un mouvement qui a déjà débuté très largement après la crise du subprime, c'est-à-dire en 2008-2009, avec le plan Obama en particulier, mais pas seulement. On a eu quoi ? On a eu quoi comme phénomène qui l'a enclenché ? On a eu une hausse des coûts salariaux unitaires dans les pays asiatiques, en Chine en particulier. Les coûts salariaux par unité produite ont augmenté. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une augmentation fantastique des gains de productivité pour des coûts salariaux qui sont restés faibles. Et donc, on a un coût salarial unitaire aux États-Unis qui a diminué. Et on a des progrès considérables dans la robotisation qui permettent de réduire la part du coût du travail dans le coût total. Et puis, troisième élément, on a eu des effets aux États-Unis qui étaient très spécifiques aux États-Unis, qui étaient la baisse du coût de l'énergie, liée au gaz de schiste en particulier. Plus la politique budgétaire, plus la politique de
baisse de l'énergie et baisse du coût du transport.
Et du coût du transport.
Ça va avec.
Et alors que justement, ce qui a fait apparaître ces mouvements de relocalisation, c'est deux mouvements clés, la hausse des coûts de transport et la hausse des coûts salariaux unitaires dans les pays émergents asiatiques. Je vous rappelle qu'au début des années 2000, le coût salarial unitaire des pays émergents, y compris la Chine, est à peu près 30% du coût salarial unitaire américain. Il est passé aujourd'hui à 80%. Donc, avec un rattrapage remarquable. Donc, relocalisation avait déjà débuté dans les industries, en particulier dans les industries pondéreuses. Il faut bien expliquer ça. Dans les industries pour lesquelles le coût transport compte, l'automobile, et pour lesquelles on peut automatiser facilement les processus de production. On peut robotiser les chaînes d'assemblage.
Et vous avez raison de dire que le mouvement était enclenché avant. Sauf que, en l'occurrence, Mark Fields, il avait annoncé la construction de cette usine l'année dernière, en 2016.
Alors si,
il est revenu là-dessus. Est-ce qu'il y a pas quand même un effet psychologique
qui a un effet tactique sur le fait que anticipant une baisse
douanière.
Non, pas seulement douanière, parce que au contraire, là, ce serait plutôt une
hausse douanière, pardon.
Douanière, mais une baisse de la fiscalité sur les entreprises, c'est-à-dire du taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés, puisque le grand effet d'annonce était le passage de 35% à 15% du taux de la fiscalité sur les entreprises, donc sur les bénéfices. Ça a été quelque chose qui a pu être un facteur qui renforçant la non délocalisation, qui est une forme de relocalisation finalement, et d'un point de vue tactique, moi je pense que ça a été simplement un opportunisme dans la poursuite d'une stratégie déjà décidée dans l'automobile. En revanche, là où il y a un biais tout à fait considérable, c'est que si les États-Unis ont été de nouveau une plateforme de relocalisation des activités productives, c'est grâce à sa proximité avec le Mexique. C'est parce qu'il y a une zone de libre-échange nord-américaine qui fait que, comme les Allemands sont revenus beaucoup dans les pays voisins d'Europe centrale et orientale, eh bien les Américains, pour les activités pour lesquelles l'automatisation n'est pas possible, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure, qui a remplacé la Chine comme atelier? Le Mexique. Et dans ce cas-là, le fait de mettre un droit de douane de 35% sur les importations en provenance du Mexique, ça va être au contraire un facteur de nouvelle délocalisation. Pas vers le Mexique, certes, puisqu'il y aura un droit de douane de 35%, mais vers d'autres zones. Et là, il y a quelque chose d'absolument contre-productif dans ces propositions de Trump, qui ne sont pas raisonnées et qui ne sont pas évaluées de manière correcte.
Il y a aussi une chose sur laquelle on peut passer un petit moment, c'est que on a l'idée que finalement le protectionnisme, ça va refermer toutes les économies sur elles-mêmes. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'un des effets du protectionnisme, dites-vous, c'est d'augmenter les investissements étrangers. Et donc finalement, pour aller chercher en gros des marchés au-delà de ses frontières, on saute les barrières douanières et puis on investit directement sur place.
Mais c'est ce qui va se passer. Si vous alourdissez les barrières douanières, vous allez augmenter les opportunités d'investissement à l'étranger. Au lieu d'exporter, l'exportation devient coûteuse, donc on va sauter les barrières et on va s'installer sur place. Il ne faut jamais oublier que la mondialisation, ce n'est pas que le commerce. C'est aussi les investissements directs. Et sur les 20 dernières années, les investissements directs à l'étranger pour aller chercher les marchés là où ils se trouvent ont été deux fois plus dynamiques que le commerce. Et d'ailleurs, au moment où en 2012, vous avez un reflux du commerce mondial, une baisse du commerce mondial qui est liée en fait à la réduction de la fragmentation des chaînes de valeur, des délocalisations verticales, etc., vous avez une augmentation. Au contraire, en 2014-2015, regardez les dernières données du rapport de la CNUSED sur les investissements directs mondiaux, une augmentation remarquable des investissements directs à l'étranger d'accès au marché. Et donc, finalement, au total, est-ce que c'est une relocalisation à un Made in America que cela va provoquer? On peut vraiment en douter. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut réfléchir à une protection raisonnée, stratégique, qui passe pas nécessairement par l'effet un peu le plus, visible, phénoménal, qui est, on va mettre des protections sur les produits, de même qu'on va mettre des murs contre les immigrés. Ça frappe les esprits, mais c'est pas ça qui va être une politique stratégique et commerciale. A nation without
borders is not a nation. Une nation sans frontières n'est pas une nation. À partir de ce jour, les États-Unis d'Amérique reprennent le contrôle de leurs frontières. Je viens de signer deux décrets présidentiels qui vont sauver des milliers de vies, des millions d'emplois et des milliards de dollars.
Et oui, l'une des premières actions de Donald Trump a été de signer ce texte lançant la construction de ce mur avec le Mexique, même si on le rappelait, on en a parlé déjà cette semaine dans Culture Monde, il y a déjà une partie de mur qui existe sur plus de 1000 kilomètres, donc il s'agit de prolonger. Et puis on rappelait également d'ailleurs que c'est en réalité une question qui préoccupe tous les présidents américains depuis les années 70 en réalité. Mais on voit clairement chez Trump, Elmo Mahout, qu'il veut lier l'affaiblissement de l'économie américaine à la question de l'immigration. Vous qui êtes un spécialiste justement de ce lien entre migration et économie. D'ailleurs, vous venez d'écrire un ouvrage sur ce point, l'immigration en France. Que vous inspire cette idée selon laquelle empêcher l'arrivée de migrants redonnera du travail aux Américains?
On a ce débat en France. Évidemment, là aussi, il faut être très clair. Ça n'est pas l'immigration qui crée de la croissance à elle seule. Sauf que l'immigration est un facteur remarquable, catalyseur de la croissance. Ça, il faut bien le reconnaître. Alors, s'agissant de redonner du travail aux Américains en réduisant l'immigration, c'est une illusion. Pourquoi ? De même que dans la proposition qui est faite aujourd'hui en France par le Front National de fait de taxer le travail, le recours aux immigrés, alors que la taxe existe déjà d'ailleurs, mais aux Européens pour relancer l'emploi des Français, il y a une escroquerie. Parce que c'est supposé que finalement il suffirait de réduire l'immigration pour augmenter le taux de chômage. Or, on est dans des situations où le taux de chômage est une affaire qui est assez différente de la création d'emplois. En dépit d'un taux de chômage de 10 à 15% selon les pays, en France on est à 10% à peu près, on a des pénuries de main-d'œuvre, on a des difficultés de recrutement. Le MEDEF, par exemple, a souligné qu'on avait 320 000 personnes manquantes dans les secteurs d'activité en tension. Pôle emploi donne un chiffre un peu plus bas de 200 000, mais en dépit d'un taux de chômage de 10%. Donc les difficultés de recrutement sur le marché du travail, elles sont assouvies par quoi à court terme et à moyen terme ? Par l'immigration. Et en particulier s'agissant de l'économie américaine, où on a un grand secteur de services et de construction qui est très fortement alimenté par l'immigration, le fait de réduire ou de déporter, comme ils disent, les immigrants mexicains par exemple vers le Mexique, ne résoudra pas les problématiques d'emploi. Pourquoi ? Parce que les emplois occupés par les migrants et ceux occupés par les natifs, c'est là la littérature est assez claire, sont des emplois qui sont plutôt complémentaires que substituables. Ils ne se substituent pas. C'est même au niveau des tâches que ça se fait. Hein, c'est-à-dire que quand les immigrants arrivent, eh bien, ils ont des effets positifs sur le marché du travail, tout simplement parce qu'ils vont occuper des tâches qui ne sont pas des tâches occupées par les... ou qui vont même libérer les natifs des tâches les plus pénibles, les plus routinières, les plus manuelles. Pensez à l'usage d'un marteau-piqueur. Voilà une tâche qui ne peut être, même si vous augmentez les salaires, à supposer qu'on peut planifier l'augmentation des salaires, eh bien, cette tâche ne peut pas être occupée par un natif, car on a des tâches qui sont extrêmement pénibles, et qui peuvent occupés par des migrants nouveaux arrivés, de nouvelles vagues d'immigration, qui peuvent éventuellement concurrencer les anciennes vagues d'immigration, mais pas les natifs, sûrement pas. Pourquoi ? Parce que c'est assez inélastique au salaire. Vous pouvez très bien augmenter de 50% des salaires, vous n'attirerez pas de gens pour manipuler un marteau-piqueur toute la journée, et puis c'est pas robotisable non plus. Donc on a des secteurs pour lesquels les difficultés de recrutement sont majeures. Et quand vous regardez les économies américaines, les chiffres ont été avancés, les chercheurs et l'innovation dans tous les domaines, c'est pour ça que les grandes firmes qui utilisent beaucoup de recherche et développement, les chercheurs se plaignent. 45% à peu près et 35% aux États-Unis en particulier des chercheurs sont des étrangers, des gens qui viennent de l'extérieur.
Ouais, donc au-delà des postures morales et politiques, selon vous, il y a vraiment une escroquerie de la limitation de l'immigration ne peut pas avoir comme effet de protéger l'emploi.
Non, parce qu'en fait, si c'était des emplois totalement substituables, on pourrait penser qu'un natif remplacerait, qui serait au chômage, bien face au départ d'un immigré, prendrait sa place.
Par ailleurs, il y a un relatif consensus en réalité au sein des économistes sur ce point-là.
Bien sûr, ça c'est tout à fait clair.
Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie que vous connaissez, a réalisé un entretien croisé avec l'économiste français Gaël Giraud dans les colonnes du Monde très récemment. Et il y dénonçait les mesures protectionnistes de Trump, expliquant que les perdants de la mondialisation, qui ont voté pour Trump justement, seront en réalité ses premières victimes. L'ironie, dit-il, est que les personnes qui ont le plus souffert ces 25 dernières années en seront les premières victimes. C'est votre avis ?
Oui, je pense exactement cela. Parce que qu'est-ce qui va se produire là ? En fait, couches de la société les plus aisées ne vont pas, elles, souffrir. Peut-être que le coût des services va devenir plus élevé si on recourt moins à l'immigration. Parce que le coût d'intermédiation, le fait d'occuper l'économie américaine, c'est une économie très riche en services, comme la plupart des économies industrielles, mais encore plus aux États-Unis. Donc il va y avoir un coût supplémentaire peut-être des services. Mais les catégories qui sont les plus aisées vont bien s'en tirer. En revanche, qu'est-ce que vous faites pour les... Imaginons qu'on aille jusqu'au bout de ces 35% en provenance du Mexique, de droits de douane. Ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que les personnels qui sont employés au Mexique, aux États-Unis, ne pourront pas remplacer les productions délocalisées au Mexique, parce que ces délocalisations et ces importations sont complémentaires de la production aux États-Unis et pas substituables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer par de la production américaine. sauf à augmenter les taux de salaire de 30%. Or, on ne voit pas ces entreprises que Trump, semble adorer, on ne les voit pas si philanthropiques pour augmenter les salaires de 30%. Et si justement il y a eu de la relocalisation, c'est parce que les salaires américains ont augmenté moins vite que les salaires des autres pays de l'OCDE, et le coût salarial unitaire américain a même baissé par rapport au coût, à la dynamique des coûts salariaux unitaires dans les pays asiatiques. Et c'est comme ça que le Mexique est devenu une base qui a permis de la relocalisation aux États-Unis, complémentaire de celle des délocalisations au Mexique. Donc les perdants vont être en effet les personnes qui sont les dépendants qui ont des revenus plus faibles pour utiliser des services, de la construction, etc. Et puis les travailleurs eux-mêmes de ces secteurs.
Au passage, taxer les importations, les produits mexicains, ça veut dire quand même remettre en cause l'ALENA.
Absolument.
L'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada. Vous pensez qu'il va le faire?
Bah là, c'est sa marge de manœuvre. Parce qu'autant pour remettre en cause l'accord multilatéral de l'OMC, il faut sortir de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, autant
les accords.
Il pourrait aller jusque-là. Enfin, comme
vous l'en croyez capable?
Écoutez, moi, je peux pas faire d'anticipation là-dessus. Mais compte tenu de l'irrationalité des mesures qu'il prend aujourd'hui, qui sont encore même pas de son point de vue protectionniste. Si on était protectionniste, on le ferait de manière un peu plus logique, en regardant les avantages et les coûts, sur quels domaines on pourrait les faire porter, etc. Comment on augmenterait les petits tarifaires. C'est fait un peu par effet d'annonce. Et je pense que, en l'occurrence, ce qui peut faire aujourd'hui, c'est utiliser ces marges de manœuvre bilatérales. Parce que là, l'accord de libre-échange le nord-américain, c'est un accord bilatéral, et donc c'est de l'ordre de la souveraineté des États. Il peut très bien le retirer, renégocier cela. Et en revanche, s'agissant de l'OMC, il pourrait effectivement décider de sortir des organisations internationales.
Et alors justement, vous parliez des gains et des coûts. Quels seraient les gains et les coûts pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale? Une sortie des États-Unis de l'OMC, qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est finalement une sortie des États-Unis de l'OMC, ce serait une reprise en main bilatérale des négociations commerciales, c'est-à-dire qu'on va revenir sur un bilatéralisme qu'on a connu justement dans la période que vous avez citée de la fin du 19e siècle, où les accords bilatéraux dominent sur les accords multilatéraux, et c'est vraiment tous azimuts, et c'est le mercantilisme où chaque pays va essayer de transférer la crise sur les voisins. Et ce que nous n'avons
donc
pas fait...
Donc les plus forts s'en sortent mieux, et les plus faibles...
Absolument, et là on voit très très bien. Ceux qui bénéficient du protectionnisme finalement, ce serait les grands pays les grandes firmes avec des grandes économies d'échelle, des grands profits, qui ont des pouvoirs de marché énormes. Pour celles-ci, le protectionnisme ne les affectera pas. Parce que c'est pas parce qu'on aura augmenté les droits de douane que leurs exportations ou leurs ventes par les filiales dans le monde diminueront. En revanche, pour ce qui est des petits producteurs, là, on a un sacré problème. Donc, c'est le monde du bilatéralisme et de l'appauvrissement des voisins, comme la littérature, certaines littératures du commerce international a pu le mettre en exergue.
Et c'est peut-être, malgré tout, le monde vers lequel on se dirige.
Absolument.
Des murs, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde. On parle de ce retour des barrières douanières. Le protectionnisme en question, c'est notre sujet. Avec El Mohoub Mohoud, on va prendre la direction de la Chine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il a fallu négocier le Trans-Pacific Partnership pendant 5 ans, et je voulais obtenir le meilleur accord possible pour les travailleurs et entreprises américaines. Et c'est ce que nous avons accompli. Ce traité possède le meilleur code de travail dans l'histoire des accords commerciaux, incluant des horaires de travail justes, interdisant le travail des enfants et également le travail forcé.
Concernant le commerce, je vous dis notre intention de nous retirer du partenariat transpacifique, qui est un désastre potentiel pour notre pays.
Voilà, Obama avait beaucoup œuvré pour obtenir l'accord de partenariat transpacifique. Il a finalement été abandonné par le nouveau président. On va retrouver Ding Yifan depuis Pékin, qui est directeur adjoint de l'Institut du développement mondial à Pékin, professeur à l'Université des langues étrangères et chercheur à l'Université de Tsinghua. Pendant toute sa campagne, Ding Yifan, Trump a répété que le TPP était un mauvais accord, répétant à l'envi qu'il avait des conséquences catastrophiques pour son pays. Il faut rappeler que ce traité, il a été signé en février 2016 et il visait à intégrer les économies de ces régions Asie-Pacifique et d'Amérique, la Chine en étant évidemment, rappelons-le, exclue. Les pays de la région misaient beaucoup sur cet accord pour contrebalancer la puissance économique de Pékin. Voilà que le 23 janvier, Trump signe ce décret pour se désengager de l'accord. Alors, les pays asiatiques, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, évidemment, sont très préoccupés par ce retrait. Mais la Chine, elle, en revanche, c'est la grande gagnante. Il y a là une fenêtre d'opportunité pour asseoir un peu plus sa domination économique et surtout pour poursuivre son propre projet de construction d'une zone de libre-échange régionale.
Il serait hasardeux de dire que la Chine serait la plus grande gagnante de ce jeu. Le problème, c'est que le TPP a été conçu comme un outil géopolitique pour exclure la Chine du développement de la zone. Cette tentative a échoué parce que la Chine est en train de pousser le développement d'une zone de libre-échange entre les pays de l'ASEAN, plus la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Mmh. Ce serait aussi une grande zone de libre-échange, mais cette fois-ci, les États-Unis ne sont pas dans le jeu. La Chine veut aussi conclure des accords de libre-échange avec les États-Unis. Donc, on ne veut pas exclure les États-Unis de cette zone de libre-échange.
Ding Yifan, quittons un peu les États-Unis, parce qu'on voit un peu partout des velléités protectionnistes, y compris chez nous en Europe. Alors même que l'Union européenne a instauré, bien sûr, un régime de libre-échange très abouti. Est-ce que vous craignez, vous, que d'autres pays prennent des mesures pour protéger leurs économies nationales? Et finalement, est-ce que c'est si étonnant que ça? Après tout, tout le monde le fait. Et la Chine également a son lot de mesures protectionnistes.
Heureusement, il y a encore l'Union européenne, parce que l'Union européenne est un mécanisme qui combat le retour du protectionnisme. Ce qui nous inquiète, c'est le retour du protectionnisme dans les pays membres de l'Union européenne. Même le Royaume-Uni n'hésite pas à quitter l'Union européenne quand elle pense que finalement le protectionnisme protégerait l'Angleterre du reste du monde. Alors, ce qui nous inquiète, c'est que les candidats pour l'élection présidentielle française ont tous plus ou moins exprimé une certaine volonté de protectionnisme. Et c'est ça qui nous inquiète, parce que la France reste tout de même le noyau de l'Union européenne. Et si le futur dirigeant de la France fait comme un peu Donald Trump, donc revient plus ou moins au protectionnisme, ça va ruiner la construction européenne. Mais ça va aussi causer beaucoup de problèmes pour le commerce mondial.
Et au-delà des problèmes, quelle pourrait être selon vous la réaction des autorités chinoises? Parce qu'on a vu effectivement Bruxelles prendre déjà un certain nombre de mesures. Je pense par exemple à la question de l'importation de l'acier chinois qui est en passe d'être taxé par Bruxelles pour protéger sa propre industrie, ce qui provoque la colère de Pékin. Est-ce qu'il faut s'attendre globalement à une forme de contre-offensive chinoise qui répondrait à ces éventuelles mesures de protection qu'on mettrait en place ici en Europe?
La Chine n'a pas l'intention de s'engager dans une guerre commerciale avec l'Union européenne ou avec les États-Unis. On va traiter au cas par cas. On va probablement porter plainte auprès de l'organisation de l'OMC si la Chine estime que certaines décisions de l'Union européenne ou des États-Unis sont contraires au règlement de l'OMC.
Mais ça n'ira pas plus loin, parce que ce que dit l'Europe, c'est que la Chine fait exactement la même chose depuis longtemps. Il y a beaucoup de points sur lesquels l'OMC, d'ailleurs, dit depuis des années que les autorités chinoises ne respectent pas les règles. Je pense par exemple à la fermeture des marchés publics, qui est un sujet de discorde depuis très longtemps.
Oui, mais si la Chine échoue dans le règlement des conflits au sein même de l'OMC, la Chine accepte le résultat de l'arbitrage de l'OMC. Donc, on ne contredit pas toutes les décisions de l'OMC.
Il y a une chose, un point sur lequel je voudrais peut-être vous entendre, Ding Yifan, parce qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises exportant vers les États-Unis font l'objet de taxes très importantes dans leur propre pays, en Chine. Et de son côté, on voit que Trump a annoncé qu'il allait baisser les impôts sur les entreprises à tel point que désormais, implanter des usines chinoises sur le territoire américain reviendrait moins cher à ces entreprises chinoises. On a récemment, par exemple, le patron de Foxconn, qui est un sous-traitant d'Apple qu'on connaît bien, qui a annoncé récemment qu'il envisageait d'investir près de 7 milliards de dollars pour la construction d'une usine aux États-Unis. On est en train d'assister à un retournement du modèle actuel dont on ne mesure peut-être pas encore les effets économiques et aussi peut-être politiques. Parce que bien sûr, c'est un phénomène qui potentiellement pourrait déstabiliser le régime chinois, non ?
Pas tellement, non. Parce que si des producteurs comme Foxconn, etc., ont décidé de quitter la Chine ou transférer leur production en dehors de Chine. C'est aussi parce que le marché chinois est devenu un marché très compétitif. Et souvent, ces producteurs étrangers ne peuvent plus concurrencer les producteurs locaux. Ils en forcent donc faire face à une concurrence terrible de la part de Huawei. Et comme ils ne peuvent pas faire face à cette concurrence, ils décident de quitter le marché chinois. En plus, si ces entreprises ont décidé d'investir au marché américain, ils n'emploient pas beaucoup de personnel. Ces entreprises ont décidé d'utiliser beaucoup de robots parce que le coût de travail reste encore relativement élevé par rapport au coût de travail en Chine. D'ailleurs, l'Economist, le magazine anglais, avait fait une estimation sur les coûts de production en termes de produits finis fiables, c'est-à-dire la proportion de produits défectueux, quoi, avec défaut. Il paraît qu'aux États-Unis, le taux est extrêmement élevé. En Chine, le taux de produits défectueux par la chaîne de production est en dessous de 1%, 0 quelques %. Alors qu'aux États-Unis, c'est à peu près 6 ou 7%.
Donc la qualité chinoise est meilleure que la qualité américaine, c'est ça que vous voulez dire?
De beaucoup. Pas seulement un peu, mais de beaucoup.
Le point sur lequel je voulais insister, c'est le fait de voir partir précisément des entreprises chinoises ailleurs, c'est un élément de fragilisation pour le régime communiste chinois.
Mais non. Même si les entreprises chinoises commencent à investir davantage en Europe ou aux États-Unis, leur plus grand investissement reste encore en Chine, parce que la Chine reste le plus grand marché pour tous les articles de consommation ainsi que pour toutes ces matières premières. Les entreprises chinoises ne sont pas suffisamment stupides pour quitter le plus grand marché du monde. La Chine va devenir le plus grand exportateur de capital depuis l'année dernière, et cette année ça va continuer. L'investissement chinois est de loin plus grand que celui des États-Unis à l'étranger.
Merci beaucoup, en tout cas, Ding Minfan, d'avoir été avec nous depuis Pékin, directeur adjoint de l'Institut du développement mondial et chercheur à l'université de Tsinghua. Réaction, Elmuhu Mouhoud, à ce
cas chinois? Très intéressante intervention. Je pense que, je ne peux pas réagir sur tout, mais au moins deux points. Sur la question de la Chine, il y a quand même, quand on regarde les statistiques de commerce international, on s'est amusé à faire ça récemment, on regarde les importations en provenance de Chine, de produits assemblés en Chine, ont chuté. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la démondialisation réelle. Le commerce a reculé. Effectivement, alors que les exportations de biens intermédiaires et de biens d'équipement européens et américains vers la Chine continuent à augmenter. Donc, ils ressortent pas pour la réexportation, mais pour le marché intérieur. Ils sont utilisés pour le marché intérieur. Parce que la Chine est en train de modifier son modèle. À cause, en particulier, de la hausse des coûts salariaux unitaires, à cause du fait que la main-d'œuvre, en dépit de l'abondance énorme de la main-d'œuvre chinoise, devient relativement en difficulté de recrutement à cause des tensions sur les zones côtières. Et donc, il y a un tournant dans la stratégie chinoise vers le marché intérieur. Et cela, c'est le premier élément de la stratégie chinoise. Le deuxième, et ça a été rappelé par notre intervenant, c'est que les excédents des réserves de change, les excédents financiers chinois, les excédents commerciaux, sont utilisés pour s'accaparer des firmes européennes ou américaines ou japonaises par le jeu des fusions-acquisitions, par les jeux de rachat de firmes, pour pouvoir accaparer des actifs technologiques et opérer un rattrapage technologique. Donc là, de ce point de vue-là, on n'est pas sûr que le fait de mettre des barrières douanières ne soit pas un renforcement de la cohérence de la stratégie chinoise à la fois vers l'intérieur et utilisant les excédents financiers pour s'accaparer par l'investissement direct étranger des actifs dans un contexte où on est dans un monde où on ne peut pas imiter les produits depuis les accords de Marrakech de l'OMC. Ça, c'était un grand gain des États-Unis de l'OMC. C'est eux qui ont gagné le plus dans cette affaire. C'est les droits de propriété intellectuelle sur le commerce. Oui. Et comme on ne peut plus imiter les produits, les firmes des pays émergents ont tendance plutôt à sauter les barrières en allant chercher les firmes, les actifs, en les rachetant avec les actifs technologiques dont elles ont besoin en complémentarité avec leur stratégie de développement. Donc là, je dis, là aussi, c'est là où il y a une incohérence, y compris pour l'intérêt des travailleurs américains, de la stratégie trumpienne.
Alors, si on s'interroge sur le protectionnisme comme outil permettant d'assurer ou pas la croissance, il faut se demander aussi si le système il est viable, s'il est résistant dans son ensemble. Or, en la matière, évidemment, la crise financière de 2008 avait montré combien, en réalité, il est extrêmement fragile. On va retrouver Jean-Michel Nolot, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Merci de votre invitation.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers qui est chargé de réguler les acteurs et produits de la place financière française. Vous êtes auteur de ce livre, Éviter l'effondrement, qui est paru au Seuil. À peine arrivé dans le bureau ovale, Trump a signé les principes fondamentaux de la déréglementation bancaire américaine. Il y a deux décrets qui vont détricoter la loi Dodd-Frank adoptée après la crise financière et permettant aussi la réduction des obligations légales des banques à l'égard de leurs clients. Il a donc tenu sa promesse de campagne. Il s'engage dans la déréglementation bancaire, ce qui évidemment est applaudi par Wall Street et largement salué par des sénateurs républicains qui exigent même que visiblement la Fed, qui est donc la réserve fédérale américaine, se retire des négociations internationales qui sont en cours sur la réglementation bancaire. Vous avez répondu, Jean-Michel Nolot, hier à un entretien dans les colonnes de Libération dans lequel vous dites que Trump est, je vous cite, « une de ces petites aiguilles qui pourrait crever la bulle financière ». Alors pourquoi, selon vous, les décisions de Trump pourraient conduire à une nouvelle crise financière internationale que, par ailleurs, vous nous promettez de façon quasi certaine, compte tenu en tout cas de l'immobilisme général qui règne et de l'impétueuse nécessité d'agir si on voulait l'éviter? Jean-Michel Nolot.
Oui, c'est d'ailleurs assez curieux de voir les paradoxes des premières décisions de Trump entre sa volonté de réglementer les échanges internationaux dans le domaine commercial, comme ça vient d'être dit au cours de votre émission, et puis sa volonté de déréglementer la finance. En réalité, on a le sentiment que l'équipe qu'il a nommée autour de lui, son secrétaire au Trésor, son conseiller économique et d'autres, qui viennent tous de Goldman Sachs, ce sont tous ces gens-là qui ont pris le pouvoir, parce que c'est une vraie folie de vouloir déréglementer la finance. C'est une vraie folie, hein, je n'exagère pas. On a vécu pendant 25 ans, hein, depuis le milieu des années 80, une période au cours de laquelle on a, jusqu'à la crise de 2008, on a déréglementé systématiquement la finance, on a refusé d'encadrer toute cette innovation financière qui est née dans les années 90, les produits dérivés, les fonds spéculatifs, aujourd'hui le trading haute fréquence, etc. Donc, c'est une décision très lourde qui a été prise à l'époque par les dirigeants américains, Reagan, ensuite toute l'équipe Clinton, qui s'est retrouvée, entre parenthèses, aux manettes aux côtés d'Obama. Obama, quand il prend ses fonctions, il nomme qui pour assurer, pour mettre en œuvre les réformes suite à la crise de 2008, il nomme quelqu'un qui avait Larry Summers, hein, qui avait opéré dans l'équipe Clinton et qui ensuite a été dirigé à un hedge fund. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la volonté de Trump d'assurer la puissance américaine dans le domaine financier, dans le monde, de mettre au premier rang les banques américaines, il y a donc une négligence complète de la gouvernance internationale et il n'a absolument pas tiré les leçons de la crise de 2008.
Mais alors pourtant justement, Jean-Michel Nolot, 2008-2009, les principaux responsables de la planète se mettent d'accord pour un certain nombre de mesures à prendre pour réguler la finance mondiale. On a même une feuille de route assez précise qui est prise dans le cadre du G20. Et puis depuis, très peu a été fait. Et ce qui a été fait, par exemple du côté des États-Unis, on est en train de le défaire. Vous parlez de négligence. Pourquoi cette négligence? Pourquoi cet immobilisme des responsables politiques? Qu'est-ce qui explique leur incapacité à réformer le système financier international?
C'est plus qu'une négligence. Moi, je pense que c'est une vraie volonté politique des dirigeants américains de donner toute sa place à la finance, de refuser de corriger cette hypertrophie de la finance qu'on constate depuis 20 ans. C'est-à-dire un déséquilibre complet entre la sphère financière et l'économie réelle.
Donc il y a vraiment une intention, donc c'est pas de la négligence, il y a une intention du côté américain en tout cas.
Mais écoutez, moi je suis jamais critique à l'égard des lobbies, des banques, sur leur volonté de préserver une grande liberté de manœuvre, etc. Ils sont tous dans leur rôle. Le problème, ce sont les dirigeants qui n'ont pas la volonté politique de faire les réformes. La feuille de route, comme vous le dites, du G20 était excellente. Hein. la feuille de route du G20 de Londres, avril 2009, était une feuille de route magnifique.
Mais non, mais je parle de négligence, Jean-Michel Nolot, parce que...
Le tiers de la feuille de route.
Ouais. Et puis on est en train de la détricoter. Je parle de négligence parce que vous vous rappelez notamment dans votre livre cet épisode où Alain Juppé, à l'époque candidat pour la présidentielle, on est en octobre 2016, avoue dans une émission de télévision qu'il ne sait pas ce qu'est le shadow banking, alors même que ça pèse, pourquoi, 40% de la finance mondiale. Et que c'est aujourd'hui, en tout cas c'est ce que vous expliquez dans votre livre, une menace considérable sur l'ensemble de l'économie.
Effectivement, j'étais vraiment très triste de, il l'a pas dit comme ça, qu'il ne savait pas ce que c'était que le shadow banking, mais il montrait clairement qu'il ne savait pas ce que c'était. Le shadow banking, c'est une finance qui est soit pas du tout réglementée, soit très peu réglementée. Moi, je vais vous donner une illustration. De ce que, il y a beaucoup de choses hein, dans le shadow banking, des choses très diverses. Il y a des fonds spéculatifs. Bon, il y a une caractéristique. C'est dans un des rapports du FMI. Vous savez qu'on a le droit de, les acteurs financiers ont le droit de prêter des titres. Eh bien, aujourd'hui, à un instant donné, un même titre, titre d'action, d'emprunt public, etc., un même titre peut être revendiqué par deux acteurs et demi. Parce que aux États-Unis, on a le droit de reprêter des titres qui ont été donnés en garantie, par exemple. Bon, vous voyez bien le genre de problème qui peut se poser le jour où on a une grave crise de liquidité. C'est ahurissant.
C'est ahurissant et votre livre très clairement
est dans ce domaine. Hein.
Votre livre.
Je vais ajouter une chose.
Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission.
Franck, qui a été voté au mois de juillet 2010. Pour réguler la finance aux États-Unis. Il dit c'est quelque chose de monstrueux, il y avait plus de 2200 pages, etc. C'est parfaitement exact, mais pourquoi est-ce que ce sont des textes aussi longs? C'est pour une raison très simple, c'est tout simplement que les gens du Congrès aux États-Unis ont écouté les lobbies, ils ont multiplié les dérogations. Vous savez, Paul Volcker, que l'ancien président de la Fed, que Barack Obama avait nommé pour rédiger la réforme bancaire après la crise de 2008. Paul Volcker avait fait un texte de 39 pages. Après délibération au Congrès, son texte faisait 290 pages. Et après que les régulateurs américains se soient occupés de tout ça, il faisait 950 pages. Eh bien, Paul Volcker disait, mais la seule raison de l'augmentation de la pagination, c'est l'intervention des lobbies, c'est la multiplication des exceptions. Et il ajoutait même une chose absolument étonnante, il disait, et en plus, ensuite, ils viennent se plaindre de la complexité des textes. Et je crois que ça résume tout.
Oui, la complexité des textes, montre bien, effectivement, peut-être ce manque de volonté, voire même carrément cette volonté de déréglementer le système bancaire, en tout cas du côté des États-Unis. Merci beaucoup, Jean-Michel Nolot. Éviter l'effondrement, c'est votre livre. Les politiques nous préparent une catastrophe financière pire que la précédente. Voilà ce qu'on lit sur le bandeau de l'éditeur. C'est Le Seuil qui a assuré l'édition de votre livre. Merci beaucoup également à Elmohoub Mohoud qui était là avec nous ce matin.
Merci.
Un grand merci de nous avoir accompagnés. Je rappellerai deux de vos ouvrages, L'immigration en France, Mitterralité, qui est paru chez Fayard, qui vient de paraître, et puis la cinquième édition qui est en préparation, qui sortira, je crois, en avril, hein, ça doit être tout ça. Mondialisation et délocalisation des entreprises, qui était paru à la Découverte, mais il y a déjà la quatrième édition qu'on peut se procurer si on le souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accompagnés ce matin. Et tout de suite sur France Culture, 11h, presque 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, suite de votre série de chroniques sur la place des médias dans la configuration politique nouvelle créée par l'irruption des partis politiques. Ce matin...
Populiste, pardon, excusez-moi.
Ce matin, un petit tour d'horizon du côté de notre voisin, l'Allemagne.
Lügenpresse, halt die Fresse. Presse menteuse, ferme ta gueule. En français, ça ne rime pas, mais ça demeure expressif. On peut au moins reconnaître aux manifestants de Pegida qui ont défilé à Dresde et dans d'autres villes d'Allemagne contre les musulmans une certaine efficacité lexicale. Mais les historiens ont fait remarquer que le néologisme Lügenpresse, forgé à partir donc du verbe Lügen, mentir et die Presse, la presse, avait déjà été utilisé dans un passé que les Allemands préféreraient oublié. Lügenpresse, c'est en effet le mot qu'utilisaient les nazis pour attaquer les journaux qui s'opposaient à eux avant la prise du pouvoir de 1933. Lügenpresse s'est d'ailleurs vu décerner le titre de mot le plus horrible de l'année par différentes institutions allemandes, ce qui ne l'a pas empêché d'être récupéré par le nouveau parti anti-UE et anti-immigré, Alternative pour l'Allemagne. Sachant combien est payante dans ce pays toute réductio ad Hitlerum, l'AFD a en retour accusé les principaux médias de connivence, les prétendant soumis à une nouvelle Gleichschaltung, un mot terrible lui aussi, qui signifie alignement, mise au pas, et qui a de bien fâcheuses connotations puisque c'est celui que les nazis ont utilisé pour leur politique de suppression des syndicats et associations indépendantes. Alors la Gleichschaltung d'aujourd'hui, ce serait la connivence existant entre les principaux médias et le gouvernement pour cacher au public les vérités qui dérangent la grosse coalition CDU-SPD. Comme vous le voyez, ça ne vole pas haut. Reste le fait indéniable qu'en Allemagne aussi, en Allemagne surtout, on a constaté une forte dégradation de l'image des médias dans l'opinion publique. La couverture tardive et réticente des agressions sexuelles du Nouvel An 2016 a donné lieu à un abondant courrier de lecteurs indignés dont a rendu compte avec honnêteté Der Spiegel. Les médias ont manipulé leur compte-rendu pour rassurer les gens, écrit ainsi à l'hebdomadaire allemand de référence une lectrice fidèle, résumant une opinion assez répandue. Mais il y a plus grave, des journalistes ont été insultés, des sites internet ont désigné à la vindicte populaire des listes de journalistes et d'animateurs de télévision jugés manipulateurs. La crise des migrants et l'accueil réservé par la chancelière à 1 million de personnes au cours de l'année 2016 a relancé cette médiaphobie. 75% des sondés estiment qu'on leur a caché la vérité quant au niveau de qualification des migrants et à la surreprésentation parmi eux des hommes selon l'Institut Allensbach.
Il y a donc bien une crise de crédibilité des médias en Allemagne. Comment l'explique-t-on sur place et comment y faire face ?
Oui, une telle crise existe bel et bien, reconnaît Petra Sorge, la rédactrice en chef du magazine de culture politique Cicero, interrogée par le Goethe-Institut. Mais cela ne tient pas aux médias eux-mêmes. Ceux-ci ne sont, selon elle, que la toile sur laquelle se projettent les luttes culturelles. Or, celles-ci se sont intensifiées ces dernières années en Allemagne. Mais il est vrai, admet Petra Sorge, que les gens ont le sentiment qu'on leur cache des réalités, ou au moins que la présentation des faits est biaisée dans un sens pro-gouvernemental. La méfiance et la suspicion sont en hausse, reconnaît de son côté Thomas Meyer, un ancien professeur de sciences politiques qui fait partie des instances dirigeantes du SPD. Les médias et la société se mettent à diverger, dit-il. Les raisons, d'une part, je le cite, bien des citoyens comparons leur propre expérience avec l'image de la société que disséminent les médias, perçoivent que des journalistes, à travers des reportages et des commentaires secrètement partisans, ont tendu à faire de la politique plutôt que de faire leur métier de manière honnête. Meyer met également en accusation les talk-shows télévisés. Censés aider les gens à faire leur propre idée, ils ont glissé vers la mise en scène de pure bataille d'ego. Enfin, les gens ont le sentiment que leurs problèmes, insécurité croissante, inégalité et exclusion, ne sont pas pris en compte ou bien seulement de manière marginale. Tabea Rössner, l'une des porte-paroles des Verts, se demande comment faire face à la perte de crédibilité des médias. Je la cite, « L'époque où ces derniers disposaient du privilège d'être seuls à pouvoir interpréter la réalité sociale, cette époque est terminée. En Allemagne, comme dans d'autres démocraties, les médias traditionnels sont désormais en concurrence avec d'autres sources d'information. Afin de restaurer leur crédit, les médias doivent travailler de manière plus transparente. » Uwe Krüger, spécialiste des médias à l'université de Leipzig, n'aime pas l'expression « Gleichschaltung » qui, comme je le disais, renvoie au passé nazi. Mais il admet qu'il y a bel et bien une forme de coordination volontaire entre les rédactions des grands journaux allemands. Il rappelle que Frank-Walter Steinmeier, le ministre SPD des Affaires étrangères, qui va d'ailleurs devenir dans quelques jours le président fédéral, s'était étonné de l'homogénéité et des pressions conformistes existant au sein des rédactions. Bien sûr, il n'existe pas en Allemagne un ministère de la propagande qui coordonnerait les médias et exercerait sur eux une censure, mais il règne bel et bien une forme de conformisme qui émane du milieu journalistique lui-même, selon Krüger. Comme dans toutes les démocraties, la meilleure façon de mettre fin à cette crise de défiance, eh bien, c'est de favoriser le pluralisme et l'ouverture.
Merci Brice Couturier. On poursuivra bien sûr toute cette semaine consacrée à cette crise de défiance vis-à-vis des médias. On peut retrouver bien sûr votre chronique sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve la grande table avec Raphaël Bourgois.